I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, vous êtes avec Vanity Fair pour notre podcast Écoutez les filles, présenté par Sophie Rosemont et qui, comme son nom l'indique, laisse la parole aux filles. Pour cette nouvelle saison, nous accueillons des artistes de la nouvelle scène française. Elles font parler d'elles et nous avions envie de leur donner la parole.
Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Claire Pommet, dite Pomme, dont on a déjà beaucoup parlé dans ce podcast. 24 ans, 2 albums, moult chansons, un jeu de guitare à fendre l'âme et une voix profondément folk qui lui ont valu 2 victoires de la musique. Mais toi, Pomme, si tu chantes en français, tu as fait tes armes comme beaucoup d'artistes américains, dans une chorale, à Lyon, tu as grandi. En quoi ça a pu façonner ton timbre ?
Je savais pas que c'était un truc d'artiste américain, tu vois, tu m'apprends quelque chose. En quoi ça a façonné mon timbre ? Bah, franchement, ça a complètement conditionné ma manière de chanter parce que à la chorale, j'ai appris à chanter de manière classique déjà. J'ai appris à placer mon souffle et j'ai appris à chanter avec des gens qui étaient à ma droite et à ma gauche qui chantaient pas forcément la même chose que moi. Donc, en polyphonie, enfin avec voilà différentes voix autour de moi. Donc, je pense que ça a complètement conditionné ensuite la manière dont j'ai chanté quand j'ai écrit mes premières chansons, parce que j'ai fait de la chorale toute mon enfance, toute mon adolescence, de 8 à 18 ans. Donc, j'ai appris à chanter sans blesser la voix et à placer ma voix correctement. Ça a été ma seule formation vocale, quoi.
Et tu as aussi fait du violoncelle.
Mm-hmm.
Et la guitare, elle est arrivée quand ?
La guitare est arrivée à 13 ans. Parce que le violoncelle, c'était mon instrument de base, mais je pouvais pas m'accompagner avec... Enfin, je pouvais, mais c'était beaucoup plus technique que juste de plaquer des accords de guitare. Et du coup, j'ai voulu apprendre la guitare pour pouvoir écrire et composer des chansons facilement, plus facilement qu'avec le violoncelle.
Tu te souviens de la première chanson que tu as écrite ?
La première chanson que j'ai écrite, c'était au piano. J'avais 8 ans et ça parlait de mon lapin qui était mort, malheureusement. Ouais, en 2004.
Oh, un peu triste.
Un peu triste.
Ça me fait penser d'ailleurs, il y a quelques années, on avait échangé par email pour une interview et je t'avais demandé de définir ta musique en 3 adjectifs et tu m'avais répondu triste, épuré et folk.
Voilà, ça n'a pas changé.
Et ce qui est le cas dans les failles,
ouais.
Ces 2 dernières années ont été très intenses, les récompenses, une reconnaissance qui s'est propagée assez vite. Comment celle qui chante ses failles et l'anxiété parvient-elle à se préserver du grand cirque médiatique ?
Je crois qu'il faut soi-même se mettre des limites. C'est-à-dire que moi, j'ai rapidement mis des limites sur les promos que j'avais envie de faire et que j'étais d'accord de faire ou pas, de mettre des limites de rythme de vie aussi, à quelle fréquence j'ai envie de faire de la promo. Enfin, j'ai rapidement choisi et j'ai rapidement trier en fait dans les propositions et dans ma présence médiatique. Elle est contrôlée par moi en fait. C'est-à-dire que je vais pas aller n'importe où parler de mon projet parce que je sais que ma musique elle rentre pas forcément dans les cases de tous les médias, que elle rentre pas dans les cases de la radio, que elle rentre pas dans plein de cases et que du coup ça sert à rien que j'aille me fatiguer et me stresser à aller dans des endroits où les gens sont pas prêts à entendre ce que j'ai à dire. Donc j'ai beaucoup sélectionné et j'ai beaucoup mis de limites, ce qui est un petit peu la base pour moi de se respecter soi-même et de dire non à des choses et faire les choses que j'ai envie de faire et aller dans les endroits où c'est safe pour moi. Et j'ai pas du tout l'impression d'avoir subi l'exposition, mais aussi parce que j'ai gagné ma première victoire 3 semaines avant le début de la pandémie. Donc en fait, moi j'ai eu une reconnaissance médiatique qui a eu lieu dans une pandémie, ce qui est quand même assez particulier. Et du coup, j'ai pas été confrontée directement à... Je sais pas comment ça se serait passé si il y avait pas eu de pandémie. Et c'est peut-être le seul truc positif de la pandémie pour moi, c'est que ça a pu me forcer à prendre du recul, quoi.
Alors, justement, quand tu me parles de recul, je pense à cette lettre ouverte qui a été publiée il y a quelques mois seulement, où tu racontes le harcèlement que tu as subi plus jeune, en fait adolescente, clairement, parce que 15-17 ans, c'est on est ado. Quelles ont été les réactions et comment tu avais vécu avec ça, avec ce trauma jusque-là ?
Je sais qu'il y a énormément de femmes et de personnes qui n'ont pas du tout la tribune médiatique dont moi je dispose et qui n'ont pas du tout en fait l'espace... et le confort de pouvoir en parler comme ça et qui ont vécu des traumatismes et des choses similaires, voire 1000 fois pire. Parce que moi, j'ai eu la chance, après cet épisode-là, d'être entourée, d'être d'être prise en charge, d'avoir une famille, d'avoir des amis, d'avoir voilà un entourage proche qui a été franchement le meilleur soutien d'atterrissage à ce moment-là. Mais cette lettre, moi, je l'ai écrite parce que je m'en sentais capable et parce que je trouvais ça important, mais aussi pour toutes les personnes qui ont pas du tout cette liberté-là et qui ont pas cette tribune-là. Donc, je n'ai aucunement lu les commentaires, en fait, parce que ça m'intéresse pas de savoir ce que les gens pensent de... Parce que je sais très bien qu'il y a des gens qui me détestent et qui me comprennent pas et qui... probablement qu'il y a des gens qui m'ont détruite sur Internet, mais enfin, je vois pas l'intérêt d'aller lire les commentaires, soit pour voir que les gens me disent genre « bravo d'avoir fait ça », alors qu'en fait, j'estime pas qu'on me doit la reconnaissance d'avoir fait ça, ou alors que les gens disent « ses parents, ils ont pas géré la situation », enfin, tu vois. Ça m'intéressait pas d'avoir du feedback, en fait, sur mon expérience. Mon expérience, c'est mon expérience. J'en ai parlé dans mes mots et l'important, c'est juste que ce soit dans l'univers, quoi. Et je crois que ça a été plutôt bien reçu. En tout cas, je crois que ça a fait du bien à plein de gens. Et la plupart des messages que j'ai reçus, que j'ai lus, qui sont donc peu nombreux parce que j'ai vraiment pas beaucoup consulté mes réseaux sociaux à ce moment-là, c'était des gens qui me remerciaient juste et qui étaient en mode genre, bah, ça fait du bien de voir que je suis pas toute seule ou que je suis pas tout seul et de voir que c'est un problème systémique et c'est pas juste des histoires isolées, quoi. C'était surtout ça, le but, c'était de mettre ça en lumière et c'était pas quelque chose qui appelait à un avis, selon moi.
Et là, tu me parles de tes parents et ça m'évoque ta mère. Et tu m'écrivais il y a quelques années, je te cite sur elle, « Elle m'a appris à être la femme que j'ai envie d'être. Elle n'a jamais été une caricature de féminité. » En quoi ça a été précieux?
Bah, je pense que ça a été simplement le point de départ pour être libre, en fait. Et c'est toujours très vrai. Disons que le fait d'avoir une mère qui vit sa féminité comme elle en a envie et de voir aussi des femmes dans la rue vivre leur féminité autrement, des femmes qui se maquillaient, des femmes qui s'épilaient et puis ma mère qui le faisait pas et bah ça m'a juste donné l'option en fait. J'étais en mode OK, donc moi je peux faire ça ou ça ou même encore un troisième truc, mais j'avais pas juste un seul exemple. Je pense que ce qui est pesant dans la société c'est d'avoir juste un exemple de comment il faut faire et de pas avoir d'autres options. Et grâce à ma mère, j'ai eu quand même plusieurs options différentes. Ça ne veut pas dire que l'option de pas se maquiller et de pas s'épiler et de pas porter tout soutien-gorge, c'est la vérité absolue des femmes. Mais ça veut dire que j'avais le droit de choisir en fait comment j'avais envie d'être et d'être qui j'étais sans me censurer ou sans ressembler à quelqu'un pour ressembler à ce qu'on attendait de moi, quoi.
Pomme, tu t'appelles Claire Pommet à la ville et Pomme est ton surnom, qui est devenu ton nom de scène et qui est à la fois bucolique, poétique, mais qui t'a valu aussi d'être jugée pas comme ce que tu étais, comme une chanteuse trop lisse. On en oubliait que tu étais autrice, compositrice, que tu jouais de plusieurs instruments. Est-ce que tu crois que Pomme, ce joli surnom qui est devenu ton nom de scène, a joué en ta défaveur?
Bah, je pense que quand on est une femme qui arrive dans l'industrie de la musique à 17 ans, il y a tout un tas de détails qui sont observés qui ne le seraient pas forcément, je pense, si c'était des garçons. À savoir le physique, à savoir le nom, à savoir est-ce qu'elle écrit ou non ses chansons parce que on part du principe qu'une femme n'écrit pas ses chansons. Est-ce qu'elle est vraiment maîtresse de son projet? Est-ce que c'est vraiment elle qui a les idées et tout? Et je pense que du coup, mon nom de scène, ça a juste été un élément parmi les autres qui était critiquable pour les médias au début et qui m'ont positionné. Parce qu'en fait, il y a eu mon label, mais il y a aussi eu les médias qui m'ont positionnée comme une artiste que j'étais pas. Et oui, mon nom, ça a participé à ça, mais en fait, c'était 100% un jugement de valeur et c'était 100%... La plupart des gens qui s'arrêtaient à mon nom n'écoutaient pas vraiment ma musique et ne cherchaient pas à comprendre qui j'étais. Et en fait, quand on regarde dans l'histoire de la musique, il y a des gens qui ont des noms accouchés dehors et que ça leur a jamais porté préjudice, ou alors ça leur a porté préjudice au début. Et puis ensuite, le succès a fait que, voilà, à partir du moment où une artiste ou un artiste a du succès, tout d'un coup, le nom, c'est anecdotique. C'était juste une manière, je pense, de sans cesse me rappeler à ma condition de jeune artiste et de dire, voilà, Pomme, c'est une chanteuse lisse et c'est une artiste qui fait des petites chansons mignonnes et tout, parce que c'était facile pour eux de me mettre là-dedans et que ça permet aussi d'être dans un rapport de domination où, du coup, je deviens une petite chose. Quand, en plus, tout le monde sait que c'est tiré de mon nom de famille et que ça, c'est une partie de mon identité et que c'est pas moi qui ai dit du jour au lendemain « Ah, j'adore les pommes, j'adore les fruits ». Enfin, faut vraiment, je pense, être un mauvais journaliste pour s'arrêter à ça, quoi, vraiment.
Sachant qu'en plus, la pomme n'est pas un fruit dénué de
non.
sens, de toute façon.
De toute façon, c'est pas comme
à la Bible.
Ouais, c'est ça, en plus.
Donc, c'est quand même un outil quelque part d'indépendance de la femme, quoi qu'on a bien voulu nous faire croire.
Bah ouais, carrément.
Ça me fait rebondir sur cette phrase, qui est un peu le gimmick de l'émission, sur laquelle je fais intervenir toutes mes invitées, qui est une formule de Gloria Steinem, qui est « La vérité vous libérera, mais d'abord, elle vous mettra en rage ». Qu'est-ce que ça fait résonner en toi ?
C'est très vrai, c'est très vrai. C'est que le monde dans lequel on vit, il est quand même assez trash. Surtout, là, on a accès à toute l'information du monde entier avec tous les problèmes du monde entier. Et en fait, c'est dur de ne pas se sentir concerné par tout. Et c'est dur de ne pas être énervé. Enfin, franchement, moi, il y a régulièrement cette question-là dans ma tête de me dire genre, comment est-ce que je gère ma colère ? Comment est-ce que je transforme cette colère-là ? Parce qu'il y a tellement d'injustices et qu'il y a tellement de trucs qui ne vont pas et qu'il y a tellement de trucs hyper, hyper triste et hyper violent, que du coup, ouais, comment est-ce que je prends ça et que j'en fais quelque chose de beau? Et c'est pour ça qu'écrire des chansons, c'est à peu près la seule solution que j'ai trouvée et qui est finalement une chance, parce que sans ça, je ne sais pas trop ce que je ferais avec ma colère, en vrai. J'ai beaucoup d'amis, beaucoup de femmes, amis-femmes qui ont cette problématique-là de ne pas savoir gérer leur colère, parce qu'en fait, et d'hommes aussi d'ailleurs, mais vraiment ce truc d'avoir l'impression que tous les problèmes... nous concerne, qu'on doit trouver des solutions et qu'en fait, je pense que la colère, c'est la première étape. C'est comme dans une rupture qui se passe mal. Si on n'est jamais en colère, on a du mal à passer à autre chose. Tandis que si on passe par une phase de colère, après, il y a une espèce de début de guérison et la colère, j'ai l'impression que la colère, elle sert aussi à mettre en ordre les idées et elle est le temps requis, en fait. Elle représente le laps de temps requis pour avoir les idées plus claires et organisées, quoi.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Tu as choisi de nous lire un extrait d'un roman de Marcia Burnier. Ce roman s'appelle Les Orageuses. C'est une autrice franco-suisse. On t'écoute.
Alors, c'est un extrait du roman. C'est aussi, je crois, la quatrième de couverture. Je ne savais pas quoi choisir, mais je trouvais que c'était assez parlant. Je vais mettre un petit contexte avant. C'est un livre que j'ai fini il y a une semaine et c'est un livre de fiction qui parle d'une bande de 6 filles qui se sont toutes fait violer ou abuser, qui ont toutes eu des traumatismes et qui décident de rendre justice à leur manière parce que la justice ne le fait pas. Et donc le texte, c'est donc un extrait qui dit « Depuis qu'elle avait revu Mia, l'histoire de vengeance, non, de rendre justice, entre guillemets, lui trottait dans la tête. On ne dit pas vengeance, lui avait dit Mia, c'est pas la même chose, là on se répare, on se rend justice parce que personne d'autre n'est disposé à le faire. » Lucie n'avait pas été très convaincue par le choix de mots, mais ça ne changeait pas grand-chose. En écoutant ses récits dans son bureau, son cœur s'emballe, elle aurait envie de crier, de diffuser à toute heure dans le pays un message qui dirait « On vous retrouvera ». Chacun d'entre vous, on sonnera à vos portes, on viendra à votre travail, chez vos parents, même des années après, même lorsque vous nous aurez oubliés, on sera là et on vous détruira. Et donc, c'est un livre de fiction, mais qui est quand même très très ancré dans la réalité. Et c'est des jeunes femmes qui décident d'agir et de s'approprier l'histoire de leur vie qui leur est enlevée par des hommes qui les agressent et qui organisent des espèces de raids dans des appartements de ces hommes-là qui les ont agressés ou violés. Mais c'est très particulier. Hein. Et c'est pas violent, en fait, parce que la violence de ce qu'elles vivent, elle est tellement immense que le retour qu'elles font, c'est hyper organisé. Elles ne touchent jamais ces hommes-là. C'est toujours autour et il n'y a jamais de contact direct parce qu'elles veulent pas répondre par de la violence physique. Enfin voilà, c'est tout un... Moi, je trouve ça hyper libérateur. J'ai trouvé cette lecture très libératrice parce que, exactement comme c'est dit dans l'extrait, quand on est agressé, quand on subit ce système-là, qu'on soit une femme ou un homme, hein, franchement, ça n'a pas de genre, en fait. L'agression, elle peut être subie par n'importe qui. La justice, c'est très complexe, en fait. Et c'est difficile quand on est une jeune personne aujourd'hui dans la société de croire en la justice. Quand on a tellement de contre-exemples de la justice qui ne rend pas justice, en fait. Donc, c'est un livre qui, pour moi, est une piste de réflexion de comment s'approprier ça et de comment réagir à ça et de ne pas subir, en fait, quand on est dans la société, quand on fait partie des gens qui subissent et qui sont oppressés. Donc, voilà, c'est une lecture hyper, hyper intense et que je conseille à tout le monde.
Et quand tu parles comme ça, tu confirmes à quel point tu es une folkeuse, parce que quand même les artistes folk, c'est quand même les protestants, mm-hmm. C'est s'élever contre l'injustice. Toi, tu, non seulement Tu tiens ces propos-là aussi bien en filigrane dans tes chansons, parfois de façon métaphorique, qu'en interview. Tu racontes ton homosexualité, tu racontes ta sexualité, tu racontes ta féminité.
Mm-hmm.
Est-ce qu'il y a des moments où tu as pu sentir que ça pouvait te mettre en danger, comme ça a été le cas pour une John Baez qui a dit à un moment donné que oui, elle sentait que sa carrière pouvait être sur le fil, que ça pouvait se retourner contre elle. Tori Amos qui a été vilipendée des centaines de fois après sa chanson sur le viol. Est-ce que toi aussi, tu as ressenti ça ou c'est, on va dire, une époque plus récente et non ?
Je me suis posé la question. En fait, moi, ce qui se passe, c'est que j'ai tellement pas pu parler sur mon premier album et que je me suis tellement censurée, que ce soit dans la musique ou dans les interviews, que je crois que depuis que mon deuxième album est sorti, je me suis jamais posé la question. J'étais en mode, OK, c'est une question de survie. Il faut que je parle de ce que je suis. Il faut que je dise qui je suis. Et je suis artiste. J'ai la chance d'avoir cette position-là. Je peux pas, en fait, me censurer. Je peux pas mentir. Je peux pas me dire que je dois pas m'engager. Mais c'est sûr que c'est probablement mal reçu par certaines personnes, que ça me ferme peut-être des portes, mais c'est des portes qui ne m'intéressent pas, en fait. C'est-à-dire que si le fait de dire ma vérité et de parler d'oppression et de dénoncer des choses qui sont injustes dans le système, ça me ferme des portes, ça ne m'intéresse pas du tout, en fait, d'y aller, quoi. De toute façon, si j'y étais allée et que j'avais dit ma vérité là-bas, ça se serait mal passé. Donc, en fait, j'essaie d'être au plus proche de moi-même et de voir ce que ça va, de voir ce que ça va déclencher. C'est surtout ça, quoi.
Et contrairement au territoire anglo-saxon, où il y a beaucoup de chanteuses qui ont raconté leur homosexualité, maintenant ça fait quand même plusieurs décennies, toi t'es une des rares en France, d'autant plus actuelle. Qu'est-ce que ça te fait? Ça t'émeut? Ça te rend quand même assez fière? J'imagine que tu dois avoir justement recevoir des messages de femmes qui se reconnaissent, qui s'identifient dans tes chansons, même si je sais que t'écris d'abord ta musique pour toi. Comment tu le vis?
Je crois que je le conscientise pas trop. Ça fait que je le vis bien. Je trouve ça super chouette que, en fait, je réalise pas. J'ai l'impression, moi, j'ai toujours eu l'impression de, j'arrive pas à me dire que j'ai été une des premières, mais je crois que c'est la réalité, en fait, parce que je me souviens qu'il y a eu Eddie de Preto qui a un petit peu ouvert la porte à ce moment-là. Et en fait, il y en a eu d'autres avant. Je sais qu'il y a eu Anne Sylvestre aussi qui, un petit peu en Zoom, a parlé d'homosexualité et tout. Mais c'est vrai que je réalise aujourd'hui que j'ai été une des premières à en parler aussi frontalement. Et encore une fois, pour moi, c'était une question de survie, c'était une question de me présenter comme j'étais et de pas me modifier et tout ça un peu en réaction à mon premier album. Et je crois que franchement, si j'y pense, parce que j'y pense pas trop, j'ai l'impression du coup de laisser ça couler et de me dire peut-être je vais réaliser plus tard l'impact que ça aura eu, peut-être que effectivement j'aurais été une des premières à parler d'être une femme lesbienne dans les médias et à peut-être aider à le normaliser, mais je crois que c'est trop frais et que du coup, j'ai l'impression que c'est encore quelque chose de... Ouais, c'est encore trop frais, quoi. Je réalise pas trop. Je reçois plein de super beaux messages. Ça me rend hyper fière, je suis hyper contente. Je crois que mon rêve, c'est aussi que d'avoir peut-être été la première, mais aussi que du coup, ça permette à toutes les suivantes de pas trop avoir à en parler et que ça devienne un non-sujet aussi dans les prochaines années et qu'on dise genre, voilà, Pomme, comme... Aloïs Sauvage, comme Suzanne, comme d'autres qui comme Oshi, qui l'ont normalisé et qui ont peut-être un peu douillé, permettent aux prochaines de plus avoir à se justifier et de plus avoir à parler de leur identité sexuelle. Donc je suis un peu dans un truc où je suis un peu dans un entre-deux où je trouve ça trop chouette et à la fois je me dis genre j'espère vraiment que ça va permettre aux prochaines et aux prochains d'être dans un truc plus fluide, quoi.
Oui, c'est en ayant des modèles, je crois aussi qu'on se lance soi-même et en fait le nombre. C'est ce qu'on disait l'autre fois avec Pénélope, plus on est nombreuses, plus au final, on n'a pas besoin de se retrouver comme étendard, même si on n'a pas choisi de l'être.
C'est ça, exactement.
Parlons des hommes, parce que malgré ce que tu as subi adolescente, au tout début de ta carrière, tu as collaboré avec Benjamin Biolay, avec Albin Nassimone, avec Raphaël, avec Jean Felizine. Tu as l'air aussi d'avoir beaucoup de complicité avec les artistes masculins.
Totalement. J'ai toujours été très amie avec les garçons. Je crois qu'il faut prendre soin des garçons et que voilà, ils ont tous une remise en question à faire, comme beaucoup d'êtres humains, hommes comme femmes. En ce moment, je crois qu'on a en fait accès à toutes les clés pour pouvoir se remettre en question et se demander qu'est-ce qu'on a à changer pour que le monde soit moins merdique, en gros. Donc voilà, c'est à chacun et chacune de le faire, mais je crois que la nouvelle génération, hommes et femmes confondus, j'ai mon petit frère qui a 20 ans, il y a plus vraiment d'excuses, en fait. C'est plus genre ah ouais, non, je savais pas qu'il fallait pas coucher avec cette fille de 16 ans bourrée. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, peut-être que je me trompe, mais que les jeunes garçons et filles sont beaucoup plus conscients et que ce soit au niveau du sexisme, mais aussi au niveau de l'écologie. C'est une génération qui, moi, dans laquelle je mets pas mal d'espoir quand même, sans leur mettre la pression, mais juste, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment toutes les clés quand je vois voilà, tous les contenus qui sont à dispo sur Internet. Il y a énormément d'informations, presque trop. Mais au moins, on peut pas dire, ils peuvent pas dire, je savais pas, quoi. Franchement, c'est plus possible. Un homme de 50 ans, il y avait des choses auxquelles, des informations auxquelles il n'avait pas accès, qui excusent jamais ses comportements, mais on a plus le même rapport avec l'information. Et l'information, elle est partout, elle est tout le temps. Il y a des militantes qui mettent à disponibilité des tonnes d'infos et de ressources pour éviter ce genre de situation. Il y a des formations par des associations. Enfin, il y a tout un tas de ressources qui sont à dispo. Donc, je pense que là, maintenant, c'est juste qu'il y a une remise en question et un travail à faire pour tout le monde. Et c'est juste à chacun de le commencer, quoi, en fait.
Pour terminer, on va se faire un moment Dolly. Car oui, tu as de nombreuses influences, mais je sais ta grande admiration et ta grande affection pour Dolly Parton. En quoi elle t'inspire ?
Bah, je l'adore, franchement, je l'adore. Elle me fascine depuis toujours. Elle a une voix incroyable. Elle représente quelque chose de fou. Elle est effectivement, c'est une féministe, mais dans son ADN. Enfin, elle a toujours été hyper libre. Elle raconte ce qu'elle veut. Elle parle de sexualité. Elle parle d'amour. Elle est très drôle dans ses interviews. Elle est très libre pour une femme de son époque et tout. Et encore à ce jour, elle est ouais, c'est quelqu'un, quoi. Moi, je la suis sur Instagram, franchement. C'est la seule personne à qui j'envoie un message, je suis en mode « réponds-moi, s'il te plaît », parce que vraiment, j'ai un espoir, tu vois. D'ailleurs, je lui ai déjà écrit, elle m'a jamais répondu, mais les autres, je m'en fous. Mais elle, tu vois, je me dis, franchement, s'il y a une personne avec qui je voudrais avoir une conversation et rencontrer cette personne, ce serait Dolly Parton. Donc voilà, je l'adore. C'était une des premières à se faire vacciner, à dire « allez vous faire vacciner ». Enfin, elle a tout le temps, tout juste, partout, tu vois. Elle est tout le temps, elle est parfaite. Je l'aime trop.
Dolly Parton, j'aimerais bien que tu répondes à Pomme,
bah
s'il
ouais,
te plaît.
C'est important.
Regarde bien ton Instagram et les messages. Tu sais, en haut à droite.
Je sais plus ce que je lui ai envoyé. Attends, je vais regarder ce que je lui ai envoyé. C'est sûrement, j'envoie des trucs assez drôles sur Insta, mais des fois, j'écris à des gens très, très connus, mais sans aucun espoir de réponse, tu vois. Vraiment, je suis en mode genre...
Bouteille à la mer.
Ouais, juste j'écris en mode genre, peut-être qu'ils vont voir ce message et être contents, tu vois. Je lui ai écrit le 19 novembre, je t'aime Dolly, avec un smiley qui sourit. 19 novembre, tu reçois ça, je t'aime, c'est sympa, tu vois.
Merci beaucoup, Pomme.
Merci.
C'était Écouter les filles, un podcast de Vanity Fair. Retrouvez les autres épisodes de la saison sur toutes nos plateformes et partout où l'on écoute des podcasts.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.